Et vous écoutez France Culture. Même la plus dangereuse école de magie ne peut vous préparer à ce qui va suivre. Naomi Novik, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en terre de fantaisie et de monde noir. Ce dimanche, nous recevrons en effet l'auteur américain Naomi Novik, figure centrale de la fantasy avec sa série Téméraire, ses romans Déracinés et La fileuse d'argent, et surtout son cycle de scolomance, ses élèves magiciens et son académie ténébreuse, cycle dont le troisième volet, Les enclaves dorées, sort aux éditions Pygmalion. Elle a accordé à Mauvais genre un long entretien mené par Jean-Luc Rivera. Chronique en second temps d'émission, signé Jean-Luc Rivera, Sixtine Audebert et Fausto Fazio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui vous emmène à l'école aujourd'hui, que vous y alliez habituellement ou que vous n'y êtes point allé depuis longtemps. Mais c'est une école un peu particulière puisqu'il sera question de Dark Academy, un peu dans le sillage de Harry Potter, avec Naomi Novik. Naomi Novik, donc la créatrice du cycle de scolomance, je répète, Les enclaves dorées, le troisième volet sort chez Pygmalion, une émission que je mène en compagnie de Sixtine Audebert. Bonjour.
Bonjour cher François.
Rien de spécial à signaler, profitez-en.
Rien de spécial, si ce n'est que vous pourrez trouver un nouvel achalandage de Requiem 2, donc toujours publication sur la presse de Hard des années 80-90 en France, à la librairie de la Philharmonie aussi, à l'occasion de cette exposition sur le métal qui s'y tient jusqu'en septembre. Pour laquelle j'ai aussi participé au catalogue, donc, sur les fanzines également du milieu hard.
Voilà. Que des occasions d'y aller. Bonjour Fausto Fazio.
Bonjour François.
Alors là aussi, même question.
Moi je recommande Requiem, voilà. Parce que Sixtine me les a offerts, donc je n'ai pas eu à les payer, contrairement à vous, chers auditeurs, désolé. Mais non, c'est vraiment très bien, bravo d'ailleurs Sixtine.
Ah, merci.
Non, je trouve ça très chouette, il y a plein d'entretiens, et finalement c'est typiquement le genre d'ouvrage, ce dont on attend de ce genre d'ouvrage, c'est vraiment le témoignage. Et là, pour le coup, on a vraiment une somme de témoignages.
Et sur la presse, Il faut dire que c'est sur la presse spécialisée plus généralement. Ça dit beaucoup de choses de ce milieu de la presse spécialisée, pas seulement de la musique hard rock en fait.
Et maintenant, j'attends que vous fassiez la même chose sur la presse spécialisée sur le cinéma fantasy.
Écoutez, cher Fausto, c'est une balle que je saisis au bond, d'autant plus que c'est un projet en réalité.
Affaires à mauvais genre se traitent en direct. C'est tout à fait admirable. Présent également Jean-Luc Rivera, que l'on retrouvera non en plateau, mais durant l'entretien. Car il est temps pour nous, à mauvais genre, de rejoindre Scolomance, la Dark Academy, créée par Naomi Novik. Et donc, je répète, troisième volet, Les enclaves dorées chez Pygmalion. C'est parti. Bonjour Naomi Novik.
Bonjour.
Merci d'accorder cet entretien à Mauvais genre sur France Culture à l'occasion de la sortie des Enclaves dorées, la leçon numéro 3, donc la geste de la saga de Scolomance. C'est aux éditions Pygmalion. Et j'ai lu, je mènerai cet entretien en compagnie de Jean-Luc Rivera, que je salue.
Bonjour François, bonjour Naomi. Inutile de dire que je suis ravi d'avoir cette occasion de rencontrer Naomi Novik et de parler de son œuvre que j'admire beaucoup.
Depuis le début.
Et on va voir les Dragons de Sa Majesté, premier volume de Téméraire.
Alors première question, Naomi, question traditionnelle. Quelles ont été les grandes étapes, les grands chocs dans la formation de votre imaginaire, que ce soit littéraire, graphique ou cinématographique? Quels sont les textes? D'où vient votre aptitude à rêver et à concevoir des mondes?
I just grew up reading fantasy.
Quand j'étais petite, je lisais des romans d'heroic fantasy, beaucoup. Le Seigneur des Anneaux, c'est un des premiers livres sur lesquels je suis tombée à 6 ans. Je l'ai lu. C'était un des tout premiers livres que je lisais toute seule. J'en ai pas compris les 9 dixièmes, mais peu importe. Mais les images créées par ces mots et que je pouvais appréhender étaient tellement vivantes, tellement puissantes.
Et
quand j'étais encore plus petite, ma mère me lisait des contes de fées polonais, car elle était d'origine polonaise.
Those stories made me think that. That's what Poland was like.
Et ça m'a fait croire que c'était à ça que ressemblait la Pologne, telle qu'elle était décrite dans ses contes.
Yes, there was this magical version of Poland.
Donc c'est une version tout à fait magique de la Pologne.
Where the woods were full of fairies with big mushroom hats.
Il y avait des fées dans les bois qui portaient des chapeaux en forme de champignons.
And for me, I think one of the key things to understand about fantasy is that fantasy is the superset of fiction.
Pour comprendre ce genre, la fantasy, c'est que c'est un peu le super décor de la fiction.
That realistic fiction is actually a smaller piece.
La fiction réaliste en est un petit fragment, mais c'est également le fruit d'une invention.
But what you have in fantasy that can be used for good or for ill.
Mais ce qu'on trouve dans la fantasy qu'on peut utiliser à bon escient ou pas,
is the power to control the entire stage. If you think about it as theater, you are in control of the set.
De maîtriser tout ce qui se passe sur le plateau. Ce super décor, c'est comme un plateau. Et avec le genre de la fantasy, on peut tout contrôler sur le plateau.
And I like having that power as a writer.
Et moi, j'aime avoir ce pouvoir.
C'est formidable de se sentir dans la peau d'une déesse toute puissante. Et on va peut-être commencer à voir, parce que vous avez eu de nombreuses casquettes. Vous nous avez parlé de fantasy, mais le premier cycle avec lequel on vous a connu, c'est celui de Téméraire. Donc l'histoire de ce dragon impérial chinois et de son associé, le capitaine Lawrence. Et là, en fait, on est dans l'Uchronie totale, si on accepte que les dragons ont pu exister à une époque. Donc, comment vous est venue l'idée de ces flottes aériennes et de ces guerres napoléoniennes qui sont menées avec des dragons?
I was thinking about the Napoleonic Wars.
Bon, je réfléchissais, je pensais aux guerres napoléoniennes.
The movie Master and Commander.
Parce que je venais voir un film, Master and Commander.
And it awakened an old passion that I'd had since
et
I was a
little
child.
Et ça réveillait une passion ancienne que j'avais depuis toute petite.
When I was about 10 years old, I read a biography of Napoleon.
Quand j'avais 10 ans, j'ai lu une biographie de Napoléon.
And it was a very hagiographic biography.
C'était tout à fait hagiographique.
And he became this sort of towering figure in my imagination.
Napoléon, dans mon imaginaire, est devenu cette figure tutélaire qui surplombait tout.
And so, of course, that makes him a wonderful enemy.
Donc, ça en fait un parfait ennemi.
I also in the intervening years become a huge fan of Georgette Heyer, of Jane Austen.
J'ai lu Georgette Heyer et Jane Austen,
who were writing sort of comedy of manners in the same era.
Qui écrivaient des comédies de mœurs à la même époque.
And what I really liked was the idea of combining all these.
Ce qui me plaisait, c'était l'idée de combiner tous ces éléments.
The swashbuckling adventure,
l'aventure, le côté capé épée,
the grand scale of the epic scale of the battles,
le côté épique des grandes batailles,
and of course dragons,
et bien sûr les dragons.
And for me to bring in dragons,
Et faire intervenir des dragons.
What that does in the world is it gave my characters, my protagonists,
c'est que ça confère à mes personnages assez d'agentivité et d'autonomie et de pouvoir pour changer le monde.
And that I find is another one of the really useful features of fantasy. That
et ça,
you
c'est
can,
un des côtés très utiles compactionnés dans la fantasy.
That the reader can then
on peut créer un personnage auquel le lecteur peut se sentir lié émotionnellement
stand in for greater forces.
Et qui va représenter des forces plus puissantes.
Yes, almost like as a metaphor, but it's embodied in a person.
Un peu comme une métaphore, mais incarnée dans un être humain, un protagoniste.
Et donc, dans Téméraire, ce qu'il y a de fascinant, justement, ce sont ces dragons qui... pour la plupart, sont des créatures pensantes, intelligentes et opprimées. Elles sont utilisées vraiment comme chair à canon, quelque part. Et ce qui fait tout l'intérêt, c'est de voir comment vous les faites évoluer et comment, en fait, ils s'émancipent grâce, justement, à un leader. Et je crois que c'est un thème qu'on va souvent retrouver aussi après. Donc, j'aimerais savoir comment vous est venue cette idée, parce qu'en même temps, c'est toujours très drôle de voir les dragons qui réclament leurs droits, par exemple, une meilleure nourriture, etc. Comment vous est venue cette idée de faire évoluer ces dragons de cette manière à travers les 9 volumes de la saga?
So I must preface this by warning you that I'm about to lie.
Alors, je vous avertis d'abord, je vais vous mentir.
When I write, when I finish a book,
quand j'écris,
in many ways,
et quand j'ai terminé un livre,
it becomes written by someone else.
C'est comme si ce livre avait été écrit par quelqu'un d'autre. Il me quitte, il se détache de moi.
And so I have to guess what that other person was thinking.
Donc je dois un peu deviner ce que pensait cet autre en l'écrivant.
But so for Téméraire, I knew that I wanted,
et pour Téméraire,
from the beginning, for their,
dès le début,
to, for the characters to not be,
je savais,
impossibly, for it to be possible for the characters to break their bond.
Qu'il fallait que ce soit vraisemblable que les personnages arrivent à se détacher de ce qui les retenait.
Because it's more powerful to me
et des liens qui les opprimaient. Parce que pour moi, ça marche davantage quand une relation est choisie délibérément par un personnage.
And I knew I wanted to put enormous stress on the relationship.
Et je voulais mettre beaucoup de pression sur cette relation.
So because of that, the dragons. It was also just I'm interested in creating characters
ce qui m'intéresse,
who think very differently,
c'est créer des personnages
potentially a sort of ordinary person would.
Qui pensent très différemment de la personne lambda.
All right. That connection between the distant mind and the...
cette connexion avec l'esprit distant.
And the other piece, of course, is that, in fact, for us, in many ways, Laurence
et puis
and
pour
Laurence's
nous,
mindset are the harder to connect to.
Laurence et son mental, c'est lui qui est le plus difficile à atteindre. C'est avec lui que c'est le plus difficile de sentir une connexion.
Because he is the person, if I do him right, if I've written him right,
parce que si j'ai bien composé ce personnage, eh bien le capitaine Laurence est celui qui est le plus éloigné de nous, qui est le plus dans le passé.
And Téméraire's point of view, in some ways, becomes a
et
bridge.
Et le point de vue de Téméraire, eh bien, c'est un peu que ça crée un pont entre lui et nous, parce qu'il dit des choses que le lecteur pense sans doute ou peut penser. Ce serait vraisemblable.
And so, for instance, when
et ce pour répondre
Temeraire
au point de vue de Laurence.
Why are we being used as cannon fodder?
Et justement, quand Téméraire s'indigne, mais pourquoi on est utilisé comme chair à canon?
This is a question that Laurence might not himself have thought to ask.
C'est une question que Laurence n'a peut-être pas pensé à poser.
But when it he is asked it, his
mais quand
essential
on la lui pose,
honor, his essential sort of strength of character,
son sens de l'honneur, sa force de caractère,
must rise to provide a true answer to the question.
Doivent se montrer à la hauteur et donner une véritable réponse à la question.
And that effort For him to rise to that, for him to rise to that challenge.
Et cet effort qu'on lui demande à Laurence de relever ce défi, d'être à la hauteur, c'est ce qui fait de lui un partenaire de choix pour Téméraire.
Alors il faut peut-être préciser pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu la saga que le capitaine Laurence a établi un lien très particulier avec Téméraire parce que lorsqu'il a recueilli l'œuf, que l'œuf s'est brisé et que Téméraire, le dragonnet, en est sorti, instantanément il y a eu une sorte de lien psychique entre les deux, et à partir de là on rejoint ce que vous venez de nous expliquer sur le fait que entre Téméraire et le capitaine Laurence, il se pose toujours des questions et il y a une relation extrêmement forte. Ce qui m'a frappé aussi dans Téméraire, c'est que vous nous emmenez, contrairement, j'allais dire, au roman suivant dont on va parler, là vous nous faites faire le tour du monde des dragons. Que ce soit dans l'Empire Inca, dans l'Empire Turc, dans l'Empire Russe, les magnifiques descriptions de la Chine et de la manière dont elle utilise ses dragons. Et cela, vous êtes beaucoup documenté là-dessus, ou vous avez laissé vraiment place aussi à toute votre imagination en la matière?
I did as much research as I could.
Oui, je me suis beaucoup documentée, j'ai fait beaucoup de recherches.
What I wanted to do, and what, of course, part of this is that, as I was sort of saying, I love history. History is
J'adore l'histoire. C'est ce que je lis pour mon plaisir, les livres d'histoire.
So for me, what was exciting about continuing the Téméraire saga for
dans
so many
ce qui me plaisait dans le fait d'écrire tant de volumes dans la saga Téméraire
was that et de continuer, in each one I felt that I was trying to explore another possibility.
Dans chaque tome, je m'efforçais d'explorer une autre possibilité quant aux relations entre les humains et les dragons dans ces différentes sociétés que vous avez mentionnées.
Very often there's a kind of shorthand used in fantasy and science fiction.
Bien souvent, en science-fiction et en heroic fantasy, on utilise un langage comme presque de la sténo.
Where, you know, for instance, most famously in Star Wars, there's the desert planet.
Dans Star Wars, par exemple, il y a la planète désertique.
There's the ice planet.
La planète glaciaire.
Where the whole planet is just one desert. The whole planet is ice.
Toute la planète n'est qu'un désert, et dans l'autre cas, toute la planète n'est que glace.
And similarly, very often,
et de la même manière,
a creature like a dragon introduced
très souvent,
into a world,
quand on introduit dans un monde un dragon,
for people and dragons to interact.
Il n'y a qu'une seule manière dont les humains et les dragons peuvent interagir entre eux.
And so one of the things that was very interesting to me about having a dragon from China.
Et ce qui m'intéressait dans le fait d'avoir un dragon originaire de Chine
and be paired with a British naval officer
qui entre en relation avec un officier de la marine navale britannique.
And it was the way in which it allowed that kind of cultural incongruity.
C'était pour moi un moyen d'explorer cette incongruité culturelle.
And from there, every book I wrote, I was looking for
a new
kind of relationship.
Dans chaque livre que j'écrivais, bien, je recherchais un nouveau type de relation.
That would feel natural to the actual history of the society.
Qui semblerait naturel par rapport aux mœurs de la société dans laquelle se déroule l'histoire.
Après la saga de Téméraire, vous passez à des romans qui sont de la fantasy vraiment pure, avec Déraciné d'abord, qui a eu en plus de ça le prix Locus, le prix Nebula et le British Fantasy Award, donc excusez du peu. Et puis La Fileuse d'Argent, qui elle aussi qui a reçu le Locus Award. Et là, dans les deux cas, nous sommes dans un environnement de fantasy, alors avec des noms, etc., un environnement qui rappelle un peu celui de la Pologne fantasmée dont vous nous parliez auparavant. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, vous mettez en scène une jeune fille de tête, même si elle n'a pas eu beaucoup de chance au démarrage, ensuite elle se développe. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la manière dont vous avez conçu là ces romans, qui sont en fait quelque part des romans d'apprentissage?
What interests me about the coming of age story is, in a way, it is a story that is always happening for all of us. We are always in the process of becoming the people we are going to be throughout our lives. And
ce qui m'intéresse beaucoup dans le roman d'apprentissage, c'est que, en fait, il s'agit d'histoires que l'on a tous vécues et qu'on continue de vivre, parce qu'on est toujours en devenir, on ne cesse d'évoluer, on ne cesse d'aller vers la personne que l'on devient. Alors, bien sûr, ce moment d'apprentissage est beaucoup plus intense à l'adolescence, car c'est le premier pas dans ce processus éternel de devenir adulte, du passage à l'âge adulte. Voilà pourquoi les romans d'apprentissage résonnent et nous parlent tellement.
Et il me semble aussi que vous insistez beaucoup, et on reviendra encore dessus après, lorsque nous parlerons de Scholomance, mais déjà il me semble que dans ces deux romans, et en particulier dans Déraciné, vous insistez énormément sur l'importance de l'éducation. Elles apprennent.
Oh, it's funny, as you say it, yes, absolutely, and it's so deep in me.
Mais oui, vous avez absolument raison, je suis presque surprise parce que c'est tellement au cœur de ce qui m'occupe que je l'avais à peine reconnu, cet accent mis sur l'éducation, mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, j'ai été élevée avec des parents qui mettaient vraiment l'accent sur l'éducation, j'élève ma fille de la même manière. Et l'éducation, eh bien, c'est comme, voilà, on est des êtres en devenir, l'éducation ne s'arrête jamais. Et finalement, l'éducation, c'est ça le véritable pouvoir, c'est ça la véritable magie à laquelle on peut atteindre dans le monde réel.
Et aussi, il me semble que c'est une autre constante, un message que vous passez dans tous vos romans. Il faut dire qu'en France, nous aimons beaucoup trouver les messages derrière et analyser. Et justement, il semble que pour vous, l'éducation, et c'est quelque chose qui est beaucoup discuté en ce moment en France, que l'éducation soit la clé pour pouvoir ensuite analyser, raisonner et trouver une solution. Et ça me paraît en particulier extrêmement clair dans Déraciné. Est-ce que vous pensez que c'est le cas?
Yes, right, that to me the.
Et tout à fait, je suis convaincue que c'est l'éducation qui nous donne à tous les outils qui nous permettent de comprendre le monde, de le déchiffrer et de comprendre différents points de vue sur un sujet, ce qui nous entraîne justement à débattre de sujets, à les peser, les analyser davantage.
And of course, one of the other pieces is that as a fantasy writer, one of the things that I have
to do. Et puis un autre aspect qui participe de l'ambition d'un écrivain de fantasy, c'est que moi je m'emploie à éduquer mes lecteurs et je sais qu'ils doivent aussi apprendre à comprendre ce monde que j'ai créé pour eux, comprendre les différents points de vue qui s'y expriment, et je pense que ça les aide également à déchiffrer le monde réel.
Alors justement, l'éducation, c'est le cœur de votre trilogie de Scholomance, qui est ce qu'on appelle de la Dark Academy. Et vous, avec Scholomance, vous avez été l'une des précurseurs en la matière. Comment ça vous est venu à l'idée, là aussi, soudainement de changer complètement de registre par rapport à la fantasy pure et dure, si j'ose dire, que vous écriviez avant, de passer à la Dark Academy?
You know, for me, it's
Mais pour moi, la scolomance ne relève pas d'un genre différent. C'est simplement un conte de fées, un conte folklorique. D'ailleurs, dans l'ouvrage Dracula de Bram Stoker, on lit que Dracula va est élève à la scolomance, et parce que justement un ami lui en a parlé, donc il y a toutes ces connexions avec les légendes de vampires liées déjà à cette dark académie, à la scolomance depuis Dracula, et d'une certaine manière, avec Déraciné, avec la fileuse d'argent, et même dans Téméraire, cela permet d'établir des discussions, des conversations, comme on le voit avec cette légende du nain tracassin Rumpelstiltskin que je fais revivre.
Parlons de la scolomance. J'ignorais d'ailleurs que c'était cité dans Dracula. Je n'avais pas fait attention. Parlons d'abord de la scolomance, parce que c'est une école absolument extraordinaire et rien à voir avec, par exemple, l'école des sorciers d'Harry Potter. Hein. La scolomance, quelque part, c'est le darwinisme poussé à son extrême. Soit si on réussit à survivre, c'est qu'on est vraiment le meilleur. Donc pouvez-vous nous parler un petit peu, d'abord pour décrire pour nos auditeurs, ce qu'est la scolomance?
So the scolomance, the key piece about the scolomance.
Le point clé à propos de cette sinistre scolomance, et ça c'est repris de la légende originale, c'est que c'était un établissement absolument horrible, terrible. Il se situe dans un monde de ténèbres, et les seules réponses aux questions des étudiants qui ne voient pas un seul adulte, pas un seul enseignant, il n'y a que, et quand ils posent des questions, la réponse est écrite en lettre de flamme. Et après 10 ans d'études, eh bien, heureusement, 9 sur 10 arrivent à s'échapper, mais au final, le diable va s'emparer du dernier diplômé et lui dérober son âme. C'est ce qui arrive à 1 élève sur 10 dans cette sinistre scolomance. Et comme il s'agit d'une légende chrétienne, perdre son âme, c'est pire que la mort, c'est synonyme de la destruction totale. Donc, question, pourquoi aller étudier à la scolomance?
And for me, answering that question is how I built the world.
Et la réponse à cette question que doit se poser l'écrivaine que je suis, eh bien, c'est me donne les clés pour savoir comment bâtir ce monde. Et au final, donc, je répondrai que, eh bien, on y va dans cette école parce que si on reste à l'extérieur de l'école, votre sort est encore pire. Mais le véritable défi pour les élèves, ce n'est pas simplement de survivre physiquement, mais, et c'est là toute la métaphore de l'adolescence, c'est d'arriver à survivre en tant qu'adulte qui serait respectable à leurs propres yeux. C'est survivre et devenir l'adulte qu'ils veulent vraiment être.
Naomi Novik, dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, il y a une véritable mythologie de l'établissement scolaire. Oxford, Cambridge, Harvard, la Ivy League, c'est-à-dire les plus grandes universités américaines, constituent véritablement des mythes sociaux et historiques, beaucoup plus qu'en France. On n'a pas l'équivalent en France, ni en Italie, peut-être un peu en Italie, en Allemagne peut-être, mais pas en France. En créant justement ce contre-univers scolaire et universitaire, vous vous attaquez, entre guillemets, à quelque chose qui est vraiment un des fondements de la société, je veux dire, traditionnelle anglo-saxonne.
For me, I think, you know, it was one of the choices that I was making early in writing Scolomance was whether this was going to be a school of magic in the world or the only school of magic in the world. And the reason that ultimately I chose to make the one school, the one and only school of magic in the world, was that in so many stories about schools, in the that sort of that English boarding school story tradition, which is not even just about magic schools, it's about real schools, and it's
c'était de me décider s'agissait-il d'une école de magie parmi d'autres dans le monde, ou était-ce l'unique, la seule et unique école de magie dans le monde. J'ai choisi cette seconde option. Pourquoi? Eh bien, vous savez, il y a toute cette tradition aussi, sans parler du genre fantasy, mais la tradition anglo-saxonne des romans qui se déroule dans un pensionnat anglais, mais là, un véritable pensionnat. Et un des ressorts clés dans toutes ces histoires, c'est un fil rouge, c'est que les élèves estiment que c'est la seule véritable école, celle dans laquelle ils se trouvent. C'est comme un peu dans Harry Potter. On évoque vaguement d'autres écoles de sorciers, Beauxbatons, etc., quelques-unes en Amérique, mais ces autres écoles apparaissent presque comme des accessoires, un décor en carton-pâte. Et les élèves se comparent toujours et estiment toujours que c'est leur école, la seule véritable école et la meilleure.
And so, for me, making there be only one school and had many, I think, good effects, it eliminated the temptation to create cardboard schools. And it also made it a worldwide school. And then I had to grapple with questions of how did the seats, the limited number of seats, get divided up among the students. And
Et j'avais tout intérêt à en faire la seule et unique école, d'abord parce que ça m'évitait de succomber à la tentation de créer d'autres écoles en carton-pâte, mais aussi parce que ça en faisait de ce fait une école mondiale. Alors, après se pose la question de comment sont réparties les places si convoitées, mais très limitées, ouvertes à la scolomance. J'avais posé le postulat que ces adolescents sorciers, ces sorciers adolescents en apprentissage voulaient désespérément y rentrer parce que leur risque de mourir à l'extérieur de l'école était bien plus grand que le risque, pourtant grand également, qu'ils couraient à y entrer. Et pouvoir accéder à la scolomance, c'est une ressource extrêmement précieuse. J'ai pu, par ailleurs, comme c'était une école mondiale, évoquer de manière assez réaliste les conflits géopolitiques qui agitent le monde réel. Et puis, il y a aussi le côté réalité dans cet accès si difficile. Vous évoquiez, François, la Ivy League, Harvard, toutes ces universités prestigieuse, eh bien, y entrer est un véritable privilège et ça vous donne déjà le ticket d'entrée pour les couloirs du pouvoir.
Alors, il faut préciser que si on a intérêt à rentrer dans la scolomance, c'est parce que les sorciers vivent dans notre monde, aux côtés de nous autres, les gens normaux, ce qu'ils appellent les communs, et qu'ils sont traqués en permanence par ce qu'ils appellent des maleficaria, qui sont des créatures qui se nourrissent des sorciers et de leur mana. Et ils sont traqués en permanence. Vous avez dû d'ailleurs bien vous amuser à créer ces innombrables créatures maléfiques, parce que c'est excessivement drôle. Il faut préciser aussi que même si l'environnement est dramatique, il y a toujours beaucoup d'humour. Et c'est pour ça que les sorciers, pour avoir une meilleure chance de survie, rentre à la scolomance, et donc notre l'héroïne de la trilogie, Galadriel, ou elle, comme on l'appelle la plupart du temps, a réussi, grâce à sa mère, à pouvoir rentrer dans la scolomance, alors que théoriquement, elle n'aurait pas jamais dû y rentrer. Il y a eu tous les sacrifices possibles. Et là encore, on en revient à l'éducation. Galadriel, donc, rentre. C'est d'abord pour avoir, parce que sa mère pense qu'il y a une meilleure chance de survie, mais c'est aussi surtout parce qu'elle pense que peut-être avec cette éducation qu'elle va recevoir à la scolomance, elle va pouvoir échapper à son destin ou le transformer.
So actually, the thing is, Elle's mother doesn't really want her to go to the scolomance. Elle thinks that Elle is the one who thinks that her only chance of survival is going to the scolomance, and she's very likely it's very likely that she's right.
But la mère de Galadriel en fait ne veut pas qu'elle aille à la scolomance. C'est elle, Galadriel, qui estime que c'est sa seule chance de survie, et elle a sans doute raison. Mais sa mère a une expérience terrible dans cette école. Elle y a en effet perdu le père de Galadriel, son compagnon qui est mort. Et vraiment, si on n'entre pas à la scolomance, on n'a pratiquement aucune chance de survie. C'est pour ça que tous font la queue pour y aller. Il y a aussi la question de cette enclave britannique qui dispose, par privilège, là encore, d'un nombre de sièges plus important que les autres enclaves. Et donc, ils souhaitent faire entrer dans l'école des enfants sorciers qui ne viennent pas de leur enclave, mais qui sont susceptibles de pouvoir aider leurs propres enfants à survivre. Quant au Maleficaria, oui, en effet, je me suis beaucoup amusée à créer ces créatures.
One of the reasons is, of course, and one of the reasons for Elle's dark humor is that the Scolomance is such a terrible place that you have to see it. I want the reader to experience it.
C'est un ingrédient indispensable, cet humour noir, parce que la scolomance est un lieu tellement horrifique qu'il faut que le lecteur puisse aller au-delà des défenses que Galadriel s'est construite pour arriver à survivre, d'où son sarcasme constant. Elle élabore aussi des plans de survie extrêmement compliqués, mais je crois que ces défenses, justement, c'est un petit peu un abri pour nous et pour le lecteur, pour nous protéger de cet univers trop noir.
Alors, justement, dans les Enclaves Dorées, le dernier tome de la trilogie, on voit là, le combat prend toute son ampleur, et on voit qu'en fait, les sorciers qui sont finalement la représentation, quelque part, de notre société actuelle, avec cette avidité de pouvoir et d'argent, cet égoïsme et cet individualisme forcené, finalement, vous passez à la place un message totalement opposé que, quelque part, pour s'en sortir, en fait, c'est l'amitié, le don de soi. Donc là aussi, vous essayez de nous passer un message d'espoir, quelque part, je pense. Et de l'éducation, naturellement.
Yes, I would say, you know, to me, friendship and community are the essential components of survival, right? Of becoming a person that you want to be, right? That it's not enough. That I don't believe in sort of a solitary hero. I don't believe in.
Oui, je crois beaucoup aux communautés d'amis, aux communautés ouvertes. Je crois que ce soutien des autres, c'est le seul moyen de devenir ce que l'on veut être. Et je ne crois pas aux héros solitaires. Je ne crois pas que les humains soient des îles qui ne communiquent pas. Je crois que justement, pour être totalement humain, eh bien, il faut puiser dans ces communautés, il faut donner et prendre. Cet échange est absolument indispensable aux humains et cela permet de créer des liens qui sont seuls à même de faire advenir des changements et de nous émanciper. Quand j'écris un livre, je ne veux pas me centrer sur un seul personnage et le voyage, la traversée de ce personnage, parce que pour moi, on ne réalise jamais rien tout seul. Il faut se reposer sur des compagnons de voyage.
Bien, merci Naomi Novik pour cet entretien et merci pour ce final humaniste et de fraternité amicale. Je rappelle que votre dernier ouvrage en français est paru aux éditions Pygmalion, Les Enclaves Dorées, leçon numéro 3 et troisième volet de la saga de la scolomance.
Merci beaucoup pour cet entretien. Je suis très heureuse d'être ici en France. C'est pas la première fois, mais chaque fois c'est magnifique.
Merci. Voilà, c'était l'entretien de Naomi Novik avec l'équipe de Mauvais Genre. Merci à Jean-Luc Rivera d'avoir mené le propos et merci à Marie Fauache d'avoir organisé cet entretien. Je rappelle évidemment l'ouvrage de Naomi Novik, Les Enclaves Dorées, leçon numéro 3, Scholomance, le cycle de Scholomance, c'est aux éditions Pygmalion. On passe maintenant aux chroniques dans Mauvais Genre et c'est bien évidemment à Jean-Luc Rivera d'ouvrir le feu.
Guivot est une autrice américaine qui est connue pour son cycle de novellas des archives des collines chantantes, dont le premier tome, L'impératrice du sel et de la fortune, a eu le Hugo de la meilleure novella. L'autrice nous projette dans une Chine antique de fantaisie, où nous suivons les périples de l'Adelphe Chi, de l'abbaye des collines chantantes, pour recueillir les archives et les ragots, etc., aidés de sa fidèle huppe, presque brillante. En effet, l'abbaye a une volière de huppe extrêmement bavarde et à la mémoire infaillible. Toutes les histoires, tous les faits qui se déroulent dans le pays sont recueillis et archivés à l'abbaye. Chi rencontre ainsi, à travers tout le pays, aussi bien le petit peuple que la noblesse et, bien entendu, de nombreuses créatures surnaturelles. Et grâce à ses connaissances, il peut ainsi se sortir des mauvais pas dans lesquels il se met et aussi de résoudre nombre de problèmes que rencontrent ses interlocuteurs. Si vous aimez la fantaisie bien écrite, à la fois poétique et sérieuse, mais toujours avec une petite pointe d'humour, dans le décor fabuleux d'une Chine qui est complètement rêvée, et j'ajouterai aussi, si vous aimez les mammouths de guerre, eh ben vous lirez L'impératrice du sel et de la fortune, quand la tigresse descendit de la montagne, entre les méandres, et des mammouths devant la porte avec autant de plaisir que moi.
Merci Jean-Luc Rivera. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Guivot, les archives des collines chantantes, donc qui comprend cette série 4 titres, et c'est paru aux éditions de l'Atalante. Je passe maintenant la parole à Sixtine Aubert.
This is Charles Bukowski. Well, just let me sit here and drink beer. What was it? I heard Cage one time. He got on the stage and he just stood there and he ate an apple and he walked off. Got $1,000. I'll drink this beer and I'll leave, right? Okay, let's forget the bullshit. Get into the so-called art. This keeps up, I may have all you guys off the shit.
Oui, j'ai entendu dire que Cage, une fois, était monté sur scène et s'était contenté de manger une pomme et après était juste parti et on lui avait donné $1,000. Cette facétie résume bien l'ambiguïté de la posture de l'artiste, en l'occurrence Bukowski, qui lui propose de juste boire une bière et partir. Ambiguïté de sa posture à la scène et à la ville et dit en creux aussi le tribut parfois terrible que l'artiste doit payer à sa légende. Alors, donc, vous l'avez deviné, évidemment, je vais vous parler de l'immense poète et romancier américain Charles Bukowski à l'occasion de la sortie de Bukowski, une vie de Nelly Tchaïkovski, un intime du Saint-Buveur de Los Angeles. Alors c'est une référence qui a connu une première édition dans les années 1990 et était depuis épuisée complètement. Alors heureusement, le diable Vauvert veille et nous voici devant une nouvelle traduction, pas seulement une nouvelle édition, une nouvelle traduction de Dinis Gallos. On pourra lire cet ouvrage comme une ultime réécriture de la geste picaresque du germanique énergumène au visage grêlé, s'escarmouchant vivement le bras armé de sa bouteille avec quelques poivres gros souffreteux dans des rats infâmes avant de culbuter une prostituée chevaline et coprophage dans des bouges au matelas empunaisé. Et pour cause, la matière de ce glorieux tombeau est en effet pour partie puisée dans des heures d'entretien enregistrés du vivant de Bouc par Cherkovski, donc des entretiens bien de vive voix, et qui se confondent en cela avec la verve intarissable, le flot continu qui mêle romans, poèmes, nouvelles, mais aussi correspondance d'un homme qui passe son temps en fait à se raconter en faisant un aller-retour incessant entre écriture et vie et écriture. Mais si on peut souligner un des mérites de cette biographie, c'est d'exposer aussi son investissement profond, durable, dans le milieu littéraire de son époque, soulignant donc l'importance des petites revues, de la presse underground et des éditeurs, de la révolution qu'on a appelée révolution miméographique à l'époque avec cette technologie de reproduction de l'écriture, qui accompagne l'émergence d'un nouveau lyrisme pop, lyrisme populaire, au sein duquel il adopte, lui, toutefois, une position marginale, se montrant peu dupe des révélations éthérées et moutonnières des mouvements beat puis hippie à l'individualisme triomphal. Alors, dans son refus de la transcendance et son irrévérence, on décèle et on doit peut-être surtout retenir, au travers des brumes de l'alcool, la cohérence d'un anarchisme virulent, que les générations de lecteurs à venir aillent chercher dans ces pages biographiques, plus que le folklore boukowskien, sa radicalité vis-à-vis du travail et de l'aisance matérielle, qui a été par ailleurs de la meilleure influence pour des générations d'auteurs français qui nous ont précédés. Je pense à Philippe Dian, évidemment, Jean-Paul Dubois et autres Philippe Garnier. Et c'est donc à retrouver chez Le Diable Vauvert, probablement.
Merci Sixtine. C'est extraordinaire la pérennité de Boukowski, parce qu'on pouvait s'imaginer que c'est un personnage qui était une sorte de phénomène spontané du temps où il est invité par Bernard Pivot sur le plateau d'Apostrophe et où il tripotait en buvant du vin blanc les genoux de Catherine Paysan, digne romancière qui s'en est trouvée. On la comprend fort outrée, puis on pouvait imaginer qu'après le personnage rejoignait une sorte de légende, mais non, il continue d'être lu, les poèmes sont réédités régulièrement, les nouvelles aussi, la biographie aussi, donc il y a vraiment, c'est un peu comme Kerouac, et un peu, d'ailleurs comme toute cette génération, Ginsberg, ça résiste au temps, Sixtine Audebert.
Oui, je ne sais pas s'il approuverait cette mise à côté sur les bancs de l'école avec justement les poètes beat, mais effectivement, c'est sûr qu'il y a une forme de d'éternité dans l'assertion qu'il a contre le monde et contre la vie embarquée dans un modèle consumériste, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement un nécessaire retour à Boukowski à effectuer.
Je rappelle donc le livre Boukowski, une vie, Nelly Cherkovski, c'est aux éditions Les Diables Vauvert. Maintenant, changement de cap.
Presque, de Bukowski à Fukasaku, c'est ça?
Alors voilà, maintenant Fausto Fazul avec vous, on va embarquer, mais pas à bord, je dirais, d'un camion postal comme Bukowski, ni à bord d'une dérade nocturne à Los Angeles, mais plutôt à bord de bagnoles totalement vouées à l'apocalypse.
Ah oui, de plusieurs véhicules dans une apocalypse motorisée, mais cela dit, après... Pour jouer au jeu des transitions, il y a un anarchisme virulent qui se retrouve aussi chez Kenji Fukasaku.
Tout à fait.
C'est absolument indéniable quand on regarde l'ensemble de sa filmographie. En préambule, je voudrais déjà saluer le travail de ses éditeurs indépendants, puisque en fait, effectivement, l'objet de cette chronique-là, c'est la sortie de deux films de Kenji Fukasaku en Blu-ray, mais c'est aussi l'arrivée sur le marché, on le sait, hautement concurrentiel de la vidéo et... pas forcément très en forme par moment, et surtout en ce moment, d'un nouvel éditeur qui s'appelle Robotofilm et qui rejoint donc une petite liste que je me suis permis de faire sur la feuille devant moi que vous ne pouvez pas voir, chers auditeurs.
Mais je vais l'entendre.
Je n'avais pas envie d'oublier qui que ce soit, donc je pense que je vais probablement avoir des mails, mais voilà, le travail d'Artus, du Chat qui fume, de Spectrum, Ecstasy of Film, Extra Lucide, Frenesi, Potemkin, Carlotta, voilà, tous ces éditeurs qui nous permettent de combler des lacunes culturelles et qui font un vrai travail de bénédictin autour de certains longs métrages, parfois difficilement trouvables justement avant ces sorties-là, avant leur sortie à eux. En l'occurrence, Violent Panic, The Big Crash, qui est donc pour la première fois au monde édité en Blu-ray. Le film était inédit en France et si je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'était pas en plus à la programmation de la rétrospective Kinji Fukasaku qui s'était tenue à la Cinémathèque en 2014. Très très grosse justement rétrospective durant laquelle on a pu voir des films qui n'avaient jamais été édités et ni même sortis en salle en France. Alors, je parlais effectivement de Violent Panic, mais c'est un diptyque que nous propose Roboto. Il y a donc Violent Panic, The Big Crash, film de 1975, et on a aussi Shogun Samurai de 1978, qui lui était déjà sorti en DVD, dans un coffret qui était dédié à l'acteur Sonny Chiba, par HK Video, en 2007, si je ne m'abuse. Je vais surtout m'attarder sur Violent Panic, qui est le gros morceau, si je puis dire, qui est surtout l'inédit de ce diptyque. Donc, c'est un film littéralement protéiforme. C'est tout à la fois un film de casse, un film d'action motorisée, c'était ce que vous disiez précédemment, François, une romance violente, une comédie noire, c'est un drame choral. J'ai envie de dire, c'est quasiment un film matrioshka, en fait. C'est-à-dire que vous ouvrez une poupée, puis il y a encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Tout ça avec cette espèce de théorie du chaos propre à Kinji Fukasaku. Mais c'est surtout à l'origine un film de casse, on suit deux braqueurs qui s'amusent à casser toutes les banques du Kansai, donc plutôt au sud du Japon, et qui caressent le doux rêve de partir sous d'autres cieux, en l'occurrence le Brésil, probablement une plage au soleil pour se dorer la pilule et changer d'identité, sauf que comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes chez Kinji Fukasaku, ça ne va pas du tout se passer comme ça. L'un des deux braqueurs va se faire tuer et le dernier magot récupéré va se retrouver courtisé par le frère de ce braqueur. Ajoutez à ça une romance, comme je le disais, particulièrement violente et noire, avec une comédienne que j'avais évoquée dans un mauvais genre précédent, Miki Sugimoto, qui était à l'affiche des Menottes Rouges, si vous vous souvenez, François. Et vous avez le cocktail de ce Violent Panic, qui est avant tout un film d'action, qui était censé émuler en fait les films de course motorisés américains qui faisaient florès justement dans le milieu des années 70. Il y a toujours cette idée de filon en fait dans la production japonaise, essayer d'exploiter des choses qui ont marché sur les écrans locaux et qui ne sont pas forcément issues du marché local. Sauf que nous sommes chez Kinji Fukasaku, qui est un grand dévoyeur de genre, qui est quelqu'un qui aime tordre les codes. Et même si on a effectivement affaire à un grand film d'action, ce qu'on pouvait attendre d'un film d'action justement motorisé est en fait tout autre chose, parce qu'il y a chez lui ce refus, ce discours autour du refus de l'autorité, cette manière aussi de tourner en dérision toutes les institutions, la manière dont il se moque de la police, par exemple, dans le film. C'est littéralement un fil rouge d'ailleurs du film. Ouais. C'est à quel point justement les forces de police peuvent être ridiculisées au fur et à mesure que l'intrigue progresse. Toujours cette espèce de background, de sous-texte social en fait, avec ce personnage de braqueur dont on comprend en fait qu'il est issu d'un milieu ultra prolétaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et que la seule issue en fait pour lui est effectivement de casser des banques. Tout ça fait que, sous couvert d'un film de commande parfaitement réglé et chorégraphié, on a un pur film de Fukasaku, c'est-à-dire un film méchant, énervé, et un film qui révèle tout son goût pour l'anarchie lors d'un final qui est absolument apocalyptique. Et je ne vous spoilerai pas ici, ce serait fort dommage.
Non, il faudrait pas. Violent Panic de Big Crash, c'est 1976. Alors maintenant, on va, pour terminer ce moment chronique, on va aller vers un peu plus de méditation et de sérénité, d'où les auditeurs de Mauvais Genre savent que depuis longtemps, on a une grande addiction pour Jacques Bergier, Louis Powells, pour Le Matin des Magiciens, dont on était allé d'ailleurs regarder le fond à la Bibliothèque Nationale, et puis après la rencontre de Jean-François Sens et d'Agnès B, la Fondation Agnès B nous avait permis aussi de faire une émission au contact avec une grande exposition sur ce thème justement du réalisme fantastique, du réalisme magique en sa compagnie. Et puis maintenant, vous savez que Laurent Polleret est capable de tout, même de produire des disques. Et là, c'est ce qu'il a fait sur son label personnel, Contour au pluriel. Il a coproduit avec Jean-François Sens un disque tout à fait passionnant qui s'appelle Un autre monde dans notre monde, qui est un peu la bande-son et l'évocation sonore de cet univers qu'on en a déjà pu apprécier dans l'exposition. Et en effet, on sait que Les Matins des Magiciens, c'est 1900. 60. On pouvait s'imaginer que le succès européen, voire mondial, de ce livre, eh bien, avait fait long feu. Et non. Ensuite, la revue Planète a pérennisé cet esprit qui était celui du réalisme fantastique, de mélange de scientisme, d'ésotérisme, de goût du merveilleux et en même temps d'analyse scientifique un peu rationnelle, liée à la personnalité et aux personnalités de Bergier et Powell. C'est donc qu'on constate avec ce disque que l'onde de choc, eh bien, s'est poursuivie, car en effet, on peut écouter dans ce disque des morceaux inspirés par Le Matin des Magiciens, notamment du groupe Aïra, avec un morceau sorti en 1969 sur le label Sarava. On entend également Brigitte Fontaine dans un disque réalisé avec Rubin et Le Paradoxe. Il y a même Guy Skornick. Alors Guy Skornick avait réalisé un disque sur l'île de Pâques en 1970, mais un disque totalement imprégné par le voyage astral et la mystique propre à Bergier et Powell. Martin Circus, ça, il fallait Laurent Polleré pour qu'on en parle un jour. De Martin Circus, le groupe premium de la pop française des années 70, et eux aussi ont fait un morceau intitulé Le Matin des Magiciens. Il y a également dans ce disque des choses beaucoup plus dantes, le Pénélope, et puis ça se termine en beauté, si j'ose le dire. Je cite également le groupe Terrain Vague au pluriel. Ça se termine en beauté avec le groupe Zombie Zombie qui a convié Paco Mtielman à lire un texte personnel sur Fulcanelli, dont on sait que c'est un des grands mythes de l'ésotérisme français contemporain. A-t-il existé, n'a-t-il pas existé, l'auteur du Mystère des cathédrales, tout cela intrinsèquement lié à l'univers du Matin des Magiciens. Alors tout cet univers matinée d'ésotérisme et d'explications un peu hors normes de la réalité, eh bien vous le retrouvez dans ce disque avec d'autant plus d'intérêt qu'on y a des archives enregistrées en France, en Suisse et en Belgique de Bergier et de Powell, qui étaient de véritables vedettes des médias. L'accent extraordinaire de Jacques Bergier et le côté un petit peu terre-à-terre de Powell se mariant tout compte fait très très bien. Ils ont écumé les plateaux pendant près de 10 ans. Et ce disque montre bien qu'en définitive, eh bien, ce Matin des Magiciens est quand même un des livres les plus importants du XXe siècle, puisque son onde de choc qui court jusqu'à Dan Brown et encore aujourd'hui avec les milieux conspis ou les milieux conspirationnistes, eh bien, ne cesse de hanter nos mémoires, une hantise que l'on retrouvera donc dans ce disque produit par Laurent Polleret et Jean-François Sens, Un autre monde dans notre monde. Voilà, ainsi s'achève Mauvais Genre. Donc, je rappelle la grande promenade avec Bergier Powell, le label Roboto Film à qui on souhaite longue vie, qui nous offre 2 parutions de Kenji Fukasaku, Bukowski. Une vie, c'est aux éditions donc Le Diable Vauvert, Ngivo, les archives des collines chantantes, c'est aux éditions La Talente, et puis Naomi Novik, les enclaves dorées, c'est aux éditions Pygmalion. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Sébastien Royer, Claire Poissignon, Sixtine Audebert, Claire Martin-Dugard, Jean-Luc Rivera, Fausto Fazulo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission.
Aucune autorité ne nous oblige à confondre l'ennui et le savoir. Aucune autorité ne nous oblige à confondre le sérieux et l'intelligence. We'll be right back.
américain, il y a 1 million d'années au moins, fabriquait des magnétos, il faisait des oscillateurs magnétiques, il fallait bien le savoir.